Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Nicole Belloubet remplace François Bayrou à la justice. Florence Parly succède à Sylvie Goulard à la tête des armées. Nathalie Loiseau arrive aux affaires européennes après le départ de Marielle de Sarnez. Trois femmes peu connues du grand public font leur entrée au gouvernement. Un remaniement d'ampleur provoqué par les démissions des ministres du Modem. Dans ce journal, les explications de Stéphane Robert et Nathanaël Charbonnier et le commentaire de notre invité, le politologue Jean Petaut. La croissance française accélère. L'INSEE prévoit 1,7% de hausse du PIB cette année. Ce serait le meilleur résultat depuis 5 ans. Nous verrons cela avec Jean-Marc Chardon. C'est une équipe élargie et paritaire qui constitue le deuxième gouvernement d'Édouard Philippe qui a été annoncé ce soir à l'Élysée. Il y a 30 membres contre 23 dans l'équipe précédente et la parité est strictement respectée avec 15 hommes et 15 femmes. Au départ, il ne devait s'agir que d'un remaniement technique marqué par l'arrivée des secrétaires d'État. Mais les démissions surprises de Richard Ferrand, Sylvie Goulard, François Bayrou et Marielle de Sarnez ont changé la donne. Ce nouveau gouvernement fait la part belle à la société civile. Il ménage aussi les sensibilités politiques. Tour d'horizon des principales nominations avec vous Stéphane Robert.
À la justice, pour remplacer François Bayrou, Nicole Belloubet a été élue municipale et régionale à Toulouse, mais c'est surtout une spécialiste de droit public et de droit européen, membre du Conseil constitutionnel. Elle a un profil plus techno que politique. Même chose pour Nathalie Loiseau aux affaires européennes. Jusqu'ici, elle était directrice de l'ENA à Strasbourg. Macron l'a rencontrée très récemment pendant sa campagne. Florence Parly, ministre des Armées, ça c'est assez surprenant. Elle a été secrétaire d'État au budget sous Lionel Jospin au début des années 2000. Mais depuis, elle avait bifurqué dans le privé, notamment à la direction de la SNCF. Elle était depuis mai 2016 directrice de SNCF Voyageurs. On a un peu de mal à voir le lien avec les affaires militaires. Les autres nominations sont plus politiques. Stéphane Travert est un ex-député socialiste passé à En Marche. Élu dans la Manche, il est nommé ministre de l'Agriculture. Jacqueline Gourault, nommée aux côtés de Gérard Collomb à l'intérieur, est sénatrice du Loir-et-Cher. Mais c'est surtout une fidèle d'entre les fidèles de François Bayrou. Venu des rangs de la droite, Sébastien Lecornu, nommé à l'environnement auprès de Nicolas Hulot, est le président du département de l'Eure et un très très proche de Bruno Le Maire, qui reste lui ministre de l'économie et des finances. Et puis le sénateur Les Républicains Jean-Baptiste Lemoyne est nommé secrétaire d'État aux affaires étrangères. Il s'était mis en marche depuis déjà plusieurs mois. Enfin, Macron place deux de ses fidèles, Julien de Normandie et Benjamin Griveaux, secrétaires d'État, l'un à la cohésion des territoires, l'autre à l'économie, donnant ainsi l'impression de mettre des ministres qu'il a débauchés sous surveillance.
Stéphane Robert, merci. On va maintenant faire connaissance avec celle qui remplace François Bayrou à la justice, Nicole Belloubet, une élue toulousaine clairement marquée à gauche, Nathanaël Charbonnier.
Elle était l'un des 9 sages qui siègent au Conseil constitutionnel. Nommée par l'ancien président socialiste du Sénat Jean-Pierre Bel, Nicole Belloubet est depuis toujours une femme de gauche. Gauche avec sa ville, Toulouse, où elle a été lorsque la municipalité était socialiste première adjointe chargée de la culture. Gauche avec sa région, Midi-Pyrénées, où elle se fera élire sur la liste du socialiste Martin Malvy pour y devenir première vice-présidente chargée de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Gauche déjà il y a quelques années lorsque Jack Lang, alors ministre de l'Éducation nationale, lui demandait de travailler sur le thème de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les établissements scolaires, ou lorsque Lionel Jospin l'a nommée rectrice de l'Académie de Limoges. Mais c'est aussi une grande juriste qui devient ministre de la Justice. Elle a reçu 2e du concours de l'agrégation de droit public, un droit qu'elle enseignera et défendra même à l'étranger avec plusieurs missions. Il s'agissait alors de faire prévaloir le droit français face au modèle anglo-saxon.
Nathanaël Charbonnier, merci. Ce remaniement d'ampleur, on l'a dit, a été provoqué indirectement par l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Les 3 têtes d'affiche du parti centriste ont démissionné du premier gouvernement Philippe, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez et François Bayrou. François Bayrou qui s'est expliqué tout à l'heure sur sa démission. « Nous n'avons jamais eu d'emploi fictif au Modem », a martelé l'ex-garde des Sceaux. S'il quitte le gouvernement, c'est, dit-il, pour ne pas exposer Emmanuel Macron dans une affaire de dénonciation anonyme. Fin de citation. Ce soir, Édouard Philippe s'est réjoui du soutien réaffirmé de François Bayrou. Le Premier ministre a aussi justifié ce remaniement par la nécessité de moraliser la vie politique pour combattre le soupçon.
Il y a un élément très fort, c'est d'abord que les Français ont indiqué beaucoup plus fermement que ce qui prévalait jusqu'alors qu'ils souhaitaient ne pas être embarrassés par le soupçon, ne pas être embarrassés par la tonalité des affaires comme on les désigne. Ce qui m'a obligé, ce qui m'a conduit à préciser la ligne qui était celle du gouvernement. Celle que j'ai indiquée clairement, celle dont je ne démords pas, celle qui reste le seul principe auquel je vais m'appliquer, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, lorsqu'un ministre est mis en examen, il doit démissionner. La question qui s'est posée, c'est est-ce qu'avant même d'être éventuellement mis en examen, il faudrait que des ministres démissionnent ? À la suite, par exemple, d'une dénonciation, d'une accusation. Est-ce que c'est simplement une accusation qui entraîne la démission ? C'est une règle très importante pour la vie collective. Et François Bayrou, lors de son intervention à 17h tout à l'heure, l'a dit très justement. On ne peut pas imaginer un système efficace et durable où une simple dénonciation, et je rejoins complètement François Bayrou sur ce point, je ne crois pas qu'on puisse vivre durablement avec un système dans lequel une simple accusation permettrait de démettre quelqu'un. C'est la raison pour laquelle je m'y tiendrai strictement.
Édouard Philippe, ce soir sur TF1, invité de ce journal, le politologue Jean Petaut de Sciences Po Bordeaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean Petaut, peut-on parler d'un gouvernement équilibré, comme l'affirme Édouard Philippe ?
Pour ce qui est des indicateurs ou des variables que vous avez évoquées vous-même, c'est-à-dire par exemple ce qu'on appelle la parité homme-femme ou les tendances politiques entre ceux dont on dit qu'ils sont issus de la société civile, même si cette expression n'a pas grand sens, et puis ceux qui sont plus déjà inscrits dans des structures partisanes, on peut dire que c'est équilibré. Du point de vue d'Édouard Philippe, on pourrait aussi répondre d'ailleurs que le départ de François Bayrou lui enlève peut-être un gros caillou de sa chaussure, car on avait constaté ces derniers temps, avant les législatives, que François Bayrou entendait bien avoir sa propre liberté de parole, quoi que dise ou quoi que demande le Premier ministre.
Mais est-ce qu'Édouard Philippe peut se passer du MoDem politiquement ?
Non, la meilleure preuve, c'est que des ministres MoDem sont venus remplacer les trois qui sont partis, et j'allais dire pas n'importe qui. Jacqueline Gourault, c'est quelqu'un de très important dans la construction du MoDem. On pourrait presque dire que elle est une sorte de vous savez, comme chez les compagnons, les maires des maisons des compagnons, elle assure une forme de continuité, et ça sera véritablement les yeux et on peut dire la voix de François Bayrou dans le gouvernement.
Mais elle va occuper un poste un peu curieux puisqu'elle sera ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est une appellation que l'on ne connaissait pas. Comment peut-on être ministre auprès du ministre de l'Intérieur ?
Alors si, il y a eu des ministres qui étaient ministre délégué, par exemple, auprès du ministre de l'Intérieur. Il y a même eu quelqu'un de connu qui s'appelait Joseph Franceschi, qui a été ministre délégué en charge de la sécurité auprès de Gaston Defferre, qui était ministre d'État, ministre de l'Intérieur en 1983. C'est d'ailleurs peu de temps après la nomination de Franceschi qu'avait éclaté l'affaire dite du scandale des Irlandais de Vincennes. Donc vous avez des ministres qui peuvent être par exemple en charge de l'aménagement du territoire ou qui venaient en quelque sorte suppléer les ministres d'État par exemple, ou comme on dit les ministres pleins. L'originalité de ce gouvernement, c'est que vous avez des secrétaires d'État qui sont nommés sans affectation particulière, sans secteur particulier auprès de ministres, et on le voit en particulier pour les plus jeunes qui sont, vous l'avez dit d'ailleurs, des proches de Macron nommés auprès de ministres qui ont un poids politique. Ceux-là n'ont pas de territoire de secrétariat d'État défini.
Jean Petaut, est-ce que vous voyez malgré tout une couleur politique dominante dans ce gouvernement ?
J'y vois très clairement la couleur Macron. C'est un gouvernement qui est conçu et construit par le président de la République. La part LR, à mon sens, reste quand même très limitée. On avait dit que c'était peut-être ce deuxième gouvernement, ce gouvernement Philippe II, était peut-être l'occasion de renforcer la place des Républicains à l'intérieur. C'est pas tout à fait le cas. Il y a bien l'entrée d'un proche de Bruno Le Maire, président du Conseil départemental de l'Eure.
Mais ça reste limité.
mais ça reste limité et on voit bien que c'est un gouvernement qui porte très largement la patte et la marque du président de la République.
Jean Petaut, dernière question, est-ce que ces législatives marquent finalement la fin du processus de recomposition de la vie politique ou bien faut-il encore s'attendre à d'autres surprises ?
En politique, on n'est jamais sûr du lendemain, et puis on voit bien l'accélération du temps politique, hein, d'ailleurs, qui vient percuter en quelque sorte non seulement le temps judiciaire, mais on pourrait presque le temps préjudiciaire, on le voit, hein, dans l'affaire Bayrou de Sarnez et Goulard. L'autre élément qui est important, c'est de dire, je pense que maintenant, on vient de terminer, on a clôturé le chapitre de l'installation, l'introduction en quelque sorte est terminée, et maintenant on passe au développement, et on pourrait dire, puisqu'on arrive bientôt dans le temps du Tour de France, que après la plaine, maintenant, le gouvernement et le président de la République attaquent la montagne, et c'est sans doute à partir de maintenant que les véritables ennuis vont commencer.
Jean Petaut, politologue à Sciences Po Bordeaux, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. En tout cas, Emmanuel Macron entame son quinquennat avec des perspectives économiques plutôt encourageantes. La croissance est de retour en France. Elle pourrait même atteindre 1,7% selon les prévisions de l'INSEE. Jean-Marc Chardon, si ces chiffres se confirment, eh bien il s'agirait du meilleur résultat depuis 2011.
Oui, on peut dire qu'il s'agit d'une amélioration d'ensemble. Elle va des indicateurs nationaux, à commencer par la consommation qui tient le coup, aux échanges commerciaux meilleurs, sur fond de reprise mondiale aussi, une reprise tirée de plus en plus par les pays émergents. Ce vent de reprise sensible en France grâce aux échanges, c'est d'ailleurs la seconde explication de cette accélération de la croissance. La balance commerciale voit son déficit reculer. Mais pour l'essentiel, c'est bien la demande qui est la clé de cette progression. Elle devrait continuer moins rapidement, freinée peut-être par des prix en hausse, mais suffisante quand même. Les ménages devraient poursuivre leurs achats dans l'immobilier. Le tourisme va aussi dans le même sens. Alors, quant au climat des affaires en général, il est repassé vers le haut d'une courbe qui avait stagné depuis 5 ans, indice 105, on n'avait pas vu cela depuis 2011. Et qui dit retour de l'investissement, consommation maintenue, commerce extérieur consolidé, c'est une promesse de gonfler l'emploi presque autant de créations attendues cette année. Cela aussi, c'est une prévision qui ne peut que conforter le gouvernement dans ses objectifs de réforme au moment où le Haut Conseil des finances publiques adresse ses critiques aux autorités nationales. Il faudra, en un mot, faire plus d'efforts qu'en 2016 pour réduire le déficit cette année.
Jean-Marc Chardon, merci. Emmanuel Macron n'est pas favorable à une relance du processus d'intégration de la Turquie au sein de l'Union européenne. Dans une interview à 8 quotidiens européens mis en ligne ce soir, dont le Figaro, le président français affirme que la Turquie heurte en ce moment certaines de nos valeurs. Il est évident qu'aller plus loin vers une intégration européenne n'est pas une solution envisageable, déclare Emmanuel Macron. L'islamiste abattu hier à la gare centrale de Bruxelles alors qu'il tentait de commettre un attentat a été identifié. Il s'agit d'un Marocain de 36 ans, domicilié dans la commune bruxelloise de Molenbeek, selon la justice belge. Il avait des sympathies pour l'État islamique. Hier soir, l'homme avait actionné une bombe artisanale qui n'a fait aucune victime. Des militaires en patrouille ont ouvert le feu pour le neutraliser. Il n'a pas survécu à ses blessures. Aux États-Unis, un policier grièvement blessé après avoir été poignardé aujourd'hui à l'aéroport de Flint dans le Michigan, et il pourrait s'agir d'un acte terroriste selon la presse américaine. L'agresseur a crié « Allahu Akbar » selon des témoins, il a été interpellé. Le FBI reste malgré tout prudent ce soir sur les motivations de cet agresseur. On termine ce journal avec la météo demain, météo toujours marquée par les fortes chaleurs sur tout le pays. 67 départements sont en vigilance orange. Canicule. Quelques orages commenceront à éclater sur les reliefs, mais aussi en plaine. Des Hauts-de-France au Grand Est, les températures maximales 24 à 31 degrés en bord de mer, 32 à 37 degrés à l'intérieur des terres. À partir de vendredi seulement, le thermomètre devrait enfin commencer à baisser. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.